Voilà, bonjour à tous. C'est un réel plaisir que d'être avec vous ce matin pour partager ce temps de culte. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste donner quelques mots me concernant, quoique je n'aime pas beaucoup parler de moi, mais apparemment il y a des nouvelles qui se sont répandues un peu dans toute la France. Donc, rassurez-vous, il y a eu plus de peur que de mal. Et s'il y a des papis parmi nous, je voudrais leur dire, ne faites jamais une course avec vos petits-enfants. Parce que ce sont toujours les petits-enfants qui gagnent. Voilà, donc j'ai voulu imiter Usain Bolt. Et je suis encore aujourd'hui incapable de dire comment je suis tombé et pourquoi je suis tombé. Donc ce qui a provoqué, surtout chez Chantal, une peur immense. Tout de suite, médecin, urgence, service de cardiologie... Enfin, c'était un truc dingue. Et moi, je savais que c'était pas grave. Mais aller convaincre quelqu'un qui est convaincu du contraire. Non, le pire, c'est que je suis tombé, je me suis ramassé correctement. Et on ne pouvait pas dire, je n'étais incapable de dire si j'avais perdu connaissance avant ou après. Mais à mon avis, j'ai perdu connaissance après la chute, parce que la tête a tapé... Donc, à partir de là, tout s'est enchaîné et nous avions prévu de passer une semaine tranquille avec nos petits-enfants en Lorraine, dans la famille de Chantal. Et puis, tout d'un seul coup, en une fraction de seconde, pour moi, tout a basculé. Moi, mes vacances, c'était les urgences et le CHU de Brabois à Nancy, service cardiologie. Pourquoi ? Je ne sais pas. En tous les cas, tout le monde est rassuré, j'ai un cœur de 20 ans. Tout est OK. Et c'est la raison pour laquelle je suis là avec vous ce matin. Alors, on ne va pas s'apitoyer sur mon sort, parce que ça n'en vaut pas la peine. Mais en tout cas, merci d'avoir pensé et prié pour moi, pour nous. Merci encore. C'est là qu'on voit combien la famille de Dieu est importante. Parce qu'après... On a reçu des coups de téléphone de partout. Moi-même, je ne savais pas. Bien sûr, ça s'est organisé dans mon dos, bien sûr, à mon insu. Donc, voilà. Alors, j'aimerais que ce matin, nous fassions ensemble un voyage. C'est le temps des vacances. Donc, ça tombe bien. Alors, pour ceux qui sont en partance de vacances, peut-être que ça va vous donner une idée de destination. Ou pour ceux qui n'ont aucune idée où ils peuvent partir, permettez-moi de vous faire une suggestion. Par contre, il faut aimer la randonnée, il faut avoir des bonnes chaussures, un sac à dos, enfin, il faut avoir un minimum d'équipement. Alors, découvrons le parcours. Si vous voulez, on va afficher la carte. Ça va venir. Voilà. Alors, peut-être que vous allez être affolé pour la longueur du parcours, mais je vous assure qu'on va avoir le temps de le faire, là, pendant le temps qu'on est ensemble. Vous allez voir, ça va aller très vite. Donc, voilà un peu le parcours que nous allons faire ce matin. Alors, nous sommes entre 49-52 après Jésus-Christ et après une séparation d'avec Barnabas et Marc. Paul et Silas prennent la route pour un deuxième voyage missionnaire qui va les faire traverser la Syrie et la Cilicie. Alors, je vous invite à lire dans le livre des Actes, au chapitre 16. Nous allons parcourir ce chapitre au fur et à mesure que nous allons avancer. Acte 16, nous allons commencer au verset 1 jusqu'au verset 8. Paul se rendit ensuite à Derbe, puis à Lystre. Il y trouva un jeune disciple nommé Timothée. Sa mère était une chrétienne d'origine juive, son père était grec. Il était très aimé des frères de Lystre, aussi bien que de ceux d'Iconium. Tous en disaient beaucoup de bien. Paul décida de se l'adjoindre comme collaborateur. Il le prit donc avec lui et le fit circoncire par égard pour les juifs de ses régions. parmi lesquels il aurait à travailler et qui tous, en effet, savaient que son père était grec. Dans toutes les villes où il passait, il transmettait et expliquait aux frères les décisions prises par les apôtres et les responsables de Jérusalem en leur demandant de s'y conformer. C'est ainsi que les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Comme le Saint-Esprit empêchait Paul et ses compagnons d'annoncer la parole dans leur province d'Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Parvenus aux confins de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils passèrent en bordure de la Mysie et descendirent au port de Troas. Donc nous sommes arrivés à Troas. Vous voyez où c'est ? En haut. Alors, je lis dans la version Parole vivante. Sans expliquer pourquoi, Dieu dit parfois non. Paul et ses compagnons traversent la Phrygie et la Galatie. Ils prient pour que des portes s'ouvrent et espèrent voir des cœurs prêts dans cette région. Mais nous lisons que le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole en Asie. Et là, moi, je suis un peu frustré parce que j'aurais bien aimé connaître les raisons de ce refus, les raisons de cette porte qui se ferme. Bon, je suis un peu curieux, mais c'est une saine curiosité. Peut-être que vous-même, vous avez fait cette expérience. Vous avez dépensé votre énergie, votre temps, même de l'argent pour exercer votre foi, faire l'œuvre du Seigneur, et les portes se ferment. Et aucune raison n'est donnée. Le Saint-Esprit les a empêchés d'entrer en Asie, point. Alors, que faire ? Que faire ? Bien, rentrer à Jérusalem, revenir en arrière, mais Paul ne se laisse pas abattre. Il s'oriente vers la Bithynie. Mais là aussi, sans explication, les portes se ferment. Alors, Saul, Paul, Silas et Timothée, qui s'est joint à eux à Lystre, mettent le cap plein ouest et arrivent à Troas. Oh, ce n'était pas une ville désagréable, on était au bord de la mer Égée. Et il est probable que c'est dans cette ville que le docteur Luc rejoint Paul, Luc qui est l'auteur du livre des Actes. D'ailleurs, il ne rapporte pas comment les trois hommes, Paul, Silas, Timothée, ont réagi face à ces impasses. Parce que cela a quand même dû leur paraître étrange. Mais ce n'est pas ce qui les a empêchés de continuer sous la direction du Saint-Esprit. Et souvent, le Seigneur dit simplement non, sans explication. Mais nous ne voulons pas l'entendre. Non, non, non et non. Quatre portes se ferment. La Phrygie, la Galatie, la Mysie, la Bithynie, ça fait beaucoup. Et au lieu de rebrousser chemin, Paul aurait pu dire, bon bien, on retourne à Antioche. Antioche, c'était un peu le quartier général de Paul. Donc il aurait pu dire, bon bien, puisque c'est comme ça, on retourne, on verra bien. Non, ils ont continué à marcher, à avancer, à aller de l'avant, dirigés par le Saint-Esprit, et ils arrivent à Troas, et là, Paul a une vision. Paul a eu la vision d'un homme qui l'implorait. Nous lisons au verset 9. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait. « Viens en Macédoine et secours-nous. » Alors, Paul a eu comme un flash. « Mais c'est bien sûr !» Voilà pourquoi toutes ces portes fermées en Asie. Je comprends pourquoi nous n'avons pas pu pénétrer en Phrygie, en Galatie, en Mysie, en Bithynie, pour y répandre la bonne nouvelle. Paul comprenait la raison pour laquelle Dieu les avait amenés à Troas, pour faire un voyage beaucoup plus étendu que prévu. Paul, dans son idée, lui, avait dit, attends, on va retourner voir les églises qu'on a implantées, on va voir comment ça se déroule, comment ça fonctionne, et puis voilà, c'était un petit peu un train-train, une habitude. Mais là, tout a été bouleversé. Paul envisageait de se rendre là, où il était déjà allé, là où il connaissait, alors que Dieu avait en vue un tout autre continent à gagner à Christ. Un endroit où personne n'avait jamais annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En fait, c'est ce que j'appellerais élargir sa vision. Et de plus, vivre et expérimenter un changement. L'équipe missionnaire obéit à la directive divine sans perdre de temps. Les nouveaux lieux ne leur faisaient pas peur. Au contraire, ils étaient pleins d'entrain. Et personne n'exprima des excuses du genre « oh là là, Seigneur, les longs voyages en bateau, ça me donne le mal de mer. Je ne suis pas sûr de supporter un tel trajet. Oh là là, mais c'est trop loin de la maison, Seigneur. Et puis je ne sais pas si nous aurons assez d'argent. » Enfin, mais dès que le Seigneur leur dit « partez », ils obéissent immédiatement. Lisons le verset 10. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché une occasion de passer en Macédoine, car nous en tirions la conclusion que Dieu lui-même nous appelait à prêcher la bonne nouvelle dans cette contrée. Donc de Troas, ils traversent, ils prennent le bateau certainement, traversent la mer Égée, passent par la Samothrace, débarquent à Néapolis, une ville portuaire située sur l'axe Europe-Asie, et ensuite ils se dirigent vers Philippe, une des principales villes de Macédoine. À l'époque, la ville de Philippe, c'était une réplique de Rome. Donc c'était une petite Rome dans cette région. Ils étaient loin de se douter que dans cette ville, leur première convertie serait une femme d'affaires, influente, qui adorait Dieu dans un lieu inhabituel. Lisons Actes 16, 13 à 5. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de l'enceinte de la cité, au bord de la rivière, où nous supposions que des Juifs se réunissaient habituellement pour la prière. Effectivement, quelques femmes étaient rassemblées là. Nous nous sommes assis parmi elles et nous avons engagé la conversation. Il y avait en particulier une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait Dieu. Elle nous écoutait attentivement et le Seigneur ouvrit son cœur de sorte qu'elle fut réceptive à ce que disait Paul. Elle se fit baptiser avec sa famille et ses employés, puis elle nous invita en ces termes. « Vous avez reconnu que je crois vraiment au Seigneur. Si vous m'estimez sincère, attaché à lui, venez accepter l'hospitalité chez moi. Vous pourrez loger dans ma maison et y demeurer aussi longtemps qu'il vous plaira. » Nous avons fini par céder à ces instances. Ce début de réveil a dû être un moment incroyable, formidable. L'équipe missionnaire se souvenait certainement de toutes les portes qui s'étaient fermées en Asie. Et là, il voit avec surprise le Seigneur ouvrir le cœur d'une femme, Lydie, qui sera d'ailleurs la première convertie d'Europe, et préparant ainsi la fondation d'une église à Philippe. Tout était dû à la direction de Dieu et à l'obéissance de Paul. C'est vrai que jusque-là, Paul ne comprenait pas encore tout, mais il obéissait fidèlement. Et la récompense, bien sûr, l'attendait à Philippe. Mais la partie est loin d'être gagnée. L'équipe missionnaire de la Macédoine n'était pas au bout de leur surprise. Lisons au partir du verset 16 jusqu'à 24. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave vint à notre rencontre. Avait en elle un esprit démoniaque ayant la faculté de prévenir l'avenir, et par ses divinations, elle procurait de jolis revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête. « Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu suprême, ils viennent vous annoncer comment être sauvés. » Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul fut excédé. Il se retourna et s'adressant directement au mauvais esprit, il dit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. » À l'instant même, il la quitta de sorte qu'elle perdit son don de divination. Alors, les maîtres de la jeune esclave s'aperçurent que leur espoir de gain s'était évanoui. Ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la grande place de la ville devant les magistrats romains. Puis, ils les conduisirent devant les gouverneurs militaires et portèrent plainte contre eux en ces termes. « Voilà des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ce sont des agitateurs dangereux. Ils cherchent à introduire ici des coutumes religieuses illégales et voudraient nous imposer des rites que nous n'avons pas le droit de pratiquer en tant que citoyens romains. Nous ne pouvons pas accepter cela. » La foule s'ameuta, se déchaîna contre eux, réclamant qu'ils soient punis. Alors, les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. Après les avoir roués de coups, ils les firent jeter en prison en donnant ordre aux gardiens de les surveiller de près. Pour obéir à la consigne, celui-ci les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vous êtes toujours prêt à poursuivre le voyage missionnaire? Bon. Paul et Silas sont saisis par surprise, battus cruellement, jetés en prison, enchaînés. Mais Seigneur, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment en sont-ils arrivés là? Attendez voir, ils étaient pleinement dans la volonté de Dieu. Ils ont obéi au Saint-Esprit. Ils étaient bien là où le Seigneur les avait appelés. Ils avaient moissonné les fruits de l'obéissance. Une église était implantée. Et voilà que les autorités de la ville les jette en prison après les avoir fouettés jusqu'au sang. Et là, dans le cachot, j'imagine Silas dire à Paul, « Dis-moi, Paul, tu pensais que c'était là que Dieu voulait que nous soyons, t'en es sûr ? Regarde, mais regarde dans quelle galère nous sommes. J'ai mal partout, mon corps me fait horriblement souffrir. Puis les Romains vont nous couper la tête. » Est-ce que cela fait partie du plan de Dieu, Paul? Je voudrais que tu m'expliques, Paul. Les troubles, les difficultés, la persécution et les épreuves ne prouvent pas nécessairement que nous sommes hors de la volonté de Dieu. Au contraire, parfois, toutes ces choses prouvent que nous sommes au cœur de son plan. Et si nous nous souvenons de cette nouvelle leçon que nous apprennent nos voyages avec Paul, je pense que cela peut nous aider. Alors, les épreuves endurées à Philippe vont avoir des conséquences heureuses. Les geôliers de Philippe, qui se convertit, lui, toute sa famille, certainement tous les gens qui étaient autour de lui. Est-ce que nous pouvons un instant imaginer la scène? Oh, apparemment, elle est sombre, très sombre. Paul et Silas sont enfermés dans une cellule sombre et humide. Ça n'a rien à voir avec les prisons d'aujourd'hui. Leurs plaies saignent, elles n'ont pas été lavées. Leurs pieds sont entravés dans une barre de bois, ce qui les oblige à s'asseoir tout droit dans une position très, très inconfortable. Et puis, les événements traumatisants les ont choqués, affligés. Quelques jours auparavant, ils ont vécu des moments formidables, des moments heureux, des moments bénis chez Lydie. Mais ces deux missionnaires ont refusé de se laisser abattre par les circonstances. Lisons les événements qui vont suivre au verset 25 et 27. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tous les autres prisonniers tendaient l'oreille. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison, jusque dans ses fondations. Aussitôt, toutes les portes se trouvèrent ouvertes et les chaînes de tous les prisonniers furent arrachées de leur scellement. Quand le gardien, réveillé en sursaut, vit les portes de la prison grandes ouvertes, il déguina son sabre et voulut se suicider, pensant que les prisonniers avaient tous pris le large. Moi, certainement que je me serais enfui. J'aurais pas attendu qu'on me dise « Vas-y, dégage ». Paul et Silas chantaient et louaient Dieu. Nous connaissons tous des moments difficiles, comme on l'a entendu, des déceptions, des trahisons, des doutes, des abandons, etc. Paul avait reçu une vision « Viens en Macédoine ». Au début, les choses étaient OK. Le réveil, conversion, baptême de Lydie, tout allait bien jusqu'à ce que le diable mette les bâtons dans les roues. Le but du diable est de nous anéantir. Une personne possédée a commencé à suivre Paul. Paul a prié pour qu'elle soit libérée. Et comme cette personne qui disait la bonne aventure rapportait de l'argent à ses maîtres, bien le revenu, il est devenu nul. Donc vous pensez bien que à partir de là, les ennuis ont commencé. Paul et Silas sont emprisonnés, tout a basculé et pourtant ils étaient dans le plan de Dieu. Seigneur, comment as-tu pu permettre cela? Enfin, moi, c'est des questions qui me viennent. J'ai dit, mais Seigneur, mais t'aurais pu empêcher tout cela? Non? Vous ne pensez pas non plus comme moi? Donc, je suis normal de penser comme ça. Tout a basculé. Le verset 25 nous indique quelque chose. Vers le milieu de la nuit. En grec, ça ne veut pas forcément dire une heure. Ça n'indique pas forcément l'heure. Il ne s'agit pas qu'il soit minuit, 2 heures du matin ou 3 heures du matin. Mais ça indique plutôt une description de l'environnement. C'est-à-dire que c'est un temps de ténèbres, ténèbres épaisses, de tristesse, de désolation, de misère. Métaphoriquement, le mot nuit, c'est le moment où le travail cesse. C'est l'heure de la mort. C'est le temps des actes de péché et de honte. C'est le temps de la bêtise morale et de l'obscurité. C'est le moment où les fatigués et aussi les ivrognes s'abandonnent au sommeil. C'est un temps où les forces des ténèbres essaient de nous détourner du plan de Dieu. Alors, que faire? Que faire? Attendre que ce qui est impossible se réalise. Oui, mais comment? Au verset 25, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges à Dieu. Si quelqu'un ce matin ici est dans une situation difficile, fais comme Paul. Paul a fait 5 choses. Paul a trouvé un ami, Silas. Il a prié. Il a chanté un chant. Il a gardé son témoignage et il a attendu l'impossible. Je répète, tu trouves un ami, tu pries, tu chantes, tu gardes ton témoignage et tu attends que l'impossible arrive. Et lorsque les chaînes sont tombées, que les portes se sont ouvertes, Paul et Silas ne sont pas partis. Moi, j'aurais détalé comme un lapin. Mais pas eux. Ils n'ont pas bougé, les autres prisonniers non plus. Et le gardien, voyant tout ça, le gardien ne comprenant pas ce qui s'est passé, a tiré son sabre, il a voulu se suicider. Et Paul lui crie, non, arrête, ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. Pourquoi? Paul avait trouvé un ami. Il a prié, il a chanté, il a gardé son témoignage, et l'impossible s'est réalisé. Tous les progrès de notre vie chrétienne se font par la foi, mes amis. Et c'est aussi vrai pour une communauté. Au Hébreux 11:6 nous dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Marcher par la foi, c'est quand nous marchons en territoire inconnu, comme Paul. C'est quand je choisis de marcher sur des choses qui n'existent pas encore. Si nous parlons de quelque chose de sûr, de certain, alors il n'y a pas besoin de foi. Et très souvent, le Seigneur ne nous donne pas trop de détails sur les choses, et parfois heureusement, parce que cela nous permettrait ne nous permettrait jamais de mettre notre foi en action. Très souvent, le Seigneur nous donne des impressions, des pensées, et ainsi je m'avance dans ce que le Seigneur m'a montré, et à travers cela, il m'accompagne dans l'accomplissement de ce qu'il m'a montré. Maintenant, concernant Paul, quand même, enfin, moi je me suis dit, mais Seigneur, quand il partait de Jérusalem pour aller vers Antioche et s'engager dans ce voyage-là, mais Seigneur, tu aurais pu lui dire, Paul, maintenant je t'envoie à Philippe, tu vas créer, tu vas implanter une église, et voilà le mode opératoire. Non, ça aurait été tellement plus facile. Mais même pas, rien, pas un mot. Et les choses ne se sont pas passées du tout comme Paul l'avait imaginé. À Troas, Paul a une vision. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient du diable qui veut semer le doute, la confusion, nous perturber? Alors, Paul et ses compagnons ont dû prier, jeûner pour chercher la confirmation et la paix de Dieu. Et nous trouvons tous des tas d'excuses pour ne pas avancer et pour rester dans le doute. Le problème, c'est que le Seigneur ne pourra jamais me faire avancer par la foi, si je reste assis dans le doute et les questions. Paul ne s'est pas laissé impressionner par les portes fermées. Il a continué à avancer. Il a continué à marcher. Tout simplement à avancer, tout simplement à marcher, tout simplement à aller de l'avant. Il a fait confiance à Dieu. Et si vous et moi, nous pouvons faire confiance au Seigneur pour aujourd'hui, alors nous pouvons lui faire confiance pour demain, après-demain, pour chaque jour qu'il nous donne de vivre. Les buts de Dieu sont rarement ceux que nous imaginons. Je termine. Luc, le bon docteur Luc, l'auteur du livre des Actes, a oublié quelque chose dans le livre des Actes. Il a oublié les paroles du chant que chantait Paul et Silas. Et comme je suis curieux, j'ai fait des recherches. Et j'ai retrouvé, figurez-vous, le vieux cantique hébreu, bien connu. Voici les paroles. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Ce sont les quatre premiers versets du psaume 40. Rappelons-nous une chose ce matin. Si tu te trouves au milieu de la nuit, que faire? Tu trouves un ami, tu pries, tu chantes un chant, tu gardes ton témoignage et tu t'attends à l'impossible. Amen. Prions. Seigneur, je veux te rendre grâce ce matin. Parce qu'il est vrai que nous trouvons des encouragements dans ta parole. Alors Seigneur, que nous puissions ce matin retenir quelque chose de ce message. À l'exemple qu'a été Paul et ses compagnons. Seigneur, tu connais chacun de nous ici présents. Tu connais les circonstances de chacun. Je voudrais simplement te recommander chacun, chaque famille représentée. Que ce temps de vacances qui vient, qui arrive pour certains, pour d'autres aussi, que ce soit vraiment un temps béni, un temps de ressourcement, un temps de renouvellement physique, spirituel. Seigneur, manifeste ta bienveillance et ta grâce pour chacun. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. Amen.